Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Comment l'histoire de France est-elle devenue familière à tous les petits Français? L'affaire n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Voilà le grand chantier que va nous expliquer Christian Amalvi, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry. Bonjour Christian Amalvi.
Bonjour.
Alors nous avons en tête cette fameuse école de Jules Ferry et de la Troisième République. En réalité, l'école primaire est bien plus ancienne et une période assez fondatrice est celle de la Restauration.
Alors, vous avez raison, effectivement, on attribue toujours à Jules Ferry, on dit que c'est le père de l'école primaire, laïque, gratuite, obligatoire, ce qui est vrai. Mais Mona Ouzouf nous a rappelé que c'est bien avant que les choses commencent, que se mettent en place. Jules Ferry n'est pas un initiateur, Jules Ferry est plutôt le continuateur, celui qui va amplifier, qui va donner à tous les travaux réalisés par ses prédécesseurs, eh bien, un immense écho, un immense développement. Alors, la Restauration va poser des jalons, mais surtout les grands prédécesseurs de Jules Ferry, c'est François Guizot, qui, par sa grande loi sur l'enseignement primaire, disons populaire, de 1833, va poser les jalons. Puis, à l'époque de l'Empire libéral, 30 ans plus tard, Victor Duruy va essayer, lui aussi, de faire de cet enseignement un enseignement populaire, gratuit. Il n'y parviendra pas parce que les finances de l'Empire ne le permettent pas et parce qu'il n'y a pas encore la nécessité, mais disons qu'il va grandement préparer le terrain à Jules Ferry. Alors, deuxième point d'introduction, je dirais que il n'y a pas que l'école qui a servi à faire connaître le passé aux Français, même si l'école a joué un rôle capital, on est bien d'accord. Ce qui a joué aussi, et Maurice Agulon nous le rappelait dans ses livres, c'est tout l'environnement dans lequel se situe le citoyen français depuis 1815 jusqu'en 1914. C'est-à-dire l'espace public, l'occupation d'espace public. L'occupation d'espace public par des statuts. Des statuts donc qui suscitent les débats, qui suscitent les controverses, qui suscitent le commentaire, des journaux, de la presse. Déjà. Les noms qu'on donne aux places publiques, qu'on donne aux rues, et vous savez que c'est d'actualité, qui vont déjà là aussi susciter la controverse. Et chaque changement de régime, 1830, 1848, 1870, 1880, va entraîner des conséquences sur ces statuts ou sur ces dénominations. Voilà. Donc, dans un premier temps, je voudrais rappeler que, par exemple, sous la Restauration, il y a tout un mouvement qui vise à montrer qu'il n'y a pas que la mémoire de Napoléon, il n'y a pas que la mémoire révolutionnaire qui compte, puisqu'au fond, l'ombre de Napoléon, même s'il est à Sainte-Hélène, même s'il est mort il y a 200 ans à Sainte-Hélène, eh bien, il est omniprésent dans la présence des Français, et la Restauration va tout faire pour faire oublier la présence du petit caporal. Donc, par exemple, la Restauration va réédifier des statues qui ont été abattues pendant la Révolution. Sur le pont Neuf, jusqu'en 1792, il y avait la statue d'Henri IV, roi très populaire, qui a été néanmoins abattue. Eh bien, la Restauration va réinstaller une statue qui est toujours en place sur le pont Neuf pour rappeler que Henri IV est le modèle de Louis XVIII, un roi populaire. La monarchie veut s'identifier à un roi populaire. Bon, il va y avoir aussi Saint-Louis. Saint-Louis va être rappelé constamment par des statues, par des tableaux. À Bordeaux, on demandera, ville légitimiste, on va envoyer au musée des Beaux-Arts des tableaux représentant les bienfaits, les actes saints de Saint-Louis, pour rappeler que la monarchie s'identifie aussi à un roi saint, à un roi proche du peuple. Bon. Il y a les statues, par exemple, toujours à Bordeaux, on va rappeler que Bordeaux, qui a été ruiné par la Révolution, par les guerres de la Révolution contre l'Angleterre et le blocus continental, donc Bordeaux a perdu toute sa fortune qui était sur les mers à cause de ces guerres, et donc elle est légitimiste, elle a le souvenir, la nostalgie, on va édifier des statues qui sont toujours en place aux grands intendants, notamment d'Etigny, qui ont fait la fortune, ont contribué à faire la fortune du Bordeaux au XVIIIe siècle. Bon, à Aix-en-Provence, la Restauration va édifier la statue du bon roi René, pour rappeler que le bon roi René, quand il était là, était populaire, les impôts n'étaient pas très lourds, etc. Donc, essayer de montrer que la monarchie ne mérite pas ce discrédit dans lequel elle est tombée à l'époque de la Révolution. Bon, on va donc édifier aussi, à Nancy, on va poser les premiers jalons d'une statue qui sera inaugurée sous la monarchie de Juillet, rappelant que le bon roi Stanislas Leczinska a transformé Nancy en une métropole, etc. Donc, autre exemple qui est important, c'est le début de la mythologie de Jeanne d'Arc, c'est sous la Restauration. Dans les années 1820, la maison qui était possédée par les héritiers de la famille d'Arc est vendue. Et des étrangers, je crois des Prussiens, se portent acquéreurs. Et les Français n'ont pas les moyens. Louis XVIII, qui est conscient du problème, va donner une subvention pour que le département des Vosges devienne propriétaire de la maison de Jeanne d'Arc. Et c'est toujours le département des Vosges qui est propriétaire de la maison de Jeanne d'Arc et donc qui accueille les visiteurs et qui a transformé, dans, il y a quelques années, cette maison en une sorte de mémorial de
Jeanne d'Arc.
À Don Rémy. Donc vous le voyez, la restauration déjà pose des jalons. On est au début du romantisme. Et tout cela favorise évidemment la prise de conscience de la nécessité de réactualiser le passé, de faire revivre le passé, surtout médiéval. Bon. Alors, la deuxième étape, et Maurice Agulhan insistait énormément sur cette étape, c'est la monarchie de Juillet. Pourquoi la monarchie de Juillet ? D'abord parce que Louis-Philippe est, en quelque sorte, je dirais, coincé entre deux opposants. Les légitimistes, qui le traitent de traître, qui disent « tu es un traître, tu as pris la place qui aurait dû être occupée par le petit-fils » de Charles X, Henri V. Et Henri V, lui, est à l'exil, il est avec son grand-père en exil à Prague. Bon. Et pour les légitimistes, le seul roi légitime, ce n'est pas Louis-Philippe qui est un traître, c'est Henri V. Louis-Philippe est d'autant plus condamné par les légitimistes qu'il est le fils de son père, le duc d'Orléans, régicide, qui s'était proclamé par démagogie Philippe Égalité, et qui, à la Convention, avait voté la mort de son cousin Louis XVI, ce que même les Jacobins ne lui demandaient pas. Et donc il y a un fleuve de sang, on peut dire, entre les légitimistes et les orléanistes. Louis-Philippe est doublement coupable. Donc il y a cette opposition de droite irréductible. On ne veut pas de Louis-Philippe. Et lorsqu'il tombe en 1848, les légitimistes sont les premiers à dire « c'est bien fait, le ciel l'a fait trébucher parce qu'il est le fils d'un régicide et parce qu'il a refusé de céder la place au roi légitime Henri V ». Et puis à gauche, bien sûr, les républicains. Ceux qui auraient bien aimé que Lafayette devienne un Washington français, c'est-à-dire un président d'une république américaine. Et la proclamation de Louis-Philippe, roi des Français, a évidemment empêché. Donc Louis-Philippe est pris entre cet étau. À gauche, les républicains. À droite, à l'extrême droite, les légitimistes. Donc sa ressource, c'est de se servir d'instrumentaliser l'histoire de France.
Alors, bon, comment fait-il ?
Alors, justement, il va montrer que la monarchie de Juillet, c'est ce qu'on a appelé, après la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire. Quand vous allez à Versailles, il va transformer le château de Versailles en musée à toutes les gloires de la France. Les gloires du Moyen-Âge, Philippe Auguste, etc. On part de Clovis, bien sûr, Vercingétorix est encore dans les limbes. On part de Vercingétorix, on part de Clovis, pardonnez-moi, de la bataille de Tolbiac. Dans la galerie de bataille, vous avez la victoire de Tolbiac avec Clovis, et on va jusqu'en 1830, jusqu'à la proclamation de Louis-Philippe, roi des Français, pour montrer que l'histoire de France est bouclée. Elle va de Clovis à Louis-Philippe.
De façon unifiée.
De façon unifiée, de manière transversale et de façon circulaire. Et puis, Louis-Philippe va mettre en place tout un programme, on peut dire, historique, et dans l'espace public, c'est-à-dire que visible par tous. Il va terminer l'arc de triomphe de l'étoile, en hommage à la grande armée de Napoléon. Et en 1830, il y a encore de nombreux combattants de Napoléon qui sont sensibles à cet honneur. Et c'est à Rude qui va demander, le sculpteur Rude, de faire cet enrôlement des volontaires que tous les contemporains de Louis-Philippe interprètent comme la Marseillaise. Bon. Avec cette figure de femme coiffée d'un bonnet phrygien qui entraîne ces volontaires qui représentent la République. Bon. Très important parce que les gravures montent aux nombreuses, ça représente quelque chose pour les Français. Bon. Deuxième élément très important, c'est la colonne de la Bastille. Louis-Philippe a été proclamé roi à l'issue des Trois Glorieuses 27, 28, 29 juillet 1830, mais juillet 1830 renvoie pour tous à juillet 1789. Au fond, la colonne de juillet, elle signifie à tous que ce qui a commencé en juillet 1789 est désormais bouclé, terminé en juillet 1830. La restauration s'est finie et désormais, on peut dire qu'il y a une sorte, j'allais dire, de « en même temps ». Pardonnez-moi l'expression, il n'y a pas d'autre dimension de clin d'œil. Mais c'est vrai que Louis-Philippe dit en même temps, je suis le descendant direct de Saint-Louis, ce qui est vrai. Il descend directement de Saint-Louis. Il peut dire aux légitimistes, je prétends, je peux continuer la légitimité, je suis descendant de Louis, de Saint-Louis. Et en même temps, j'ai combattu à Valmy et à Jemmapes du côté des révolutionnaires. Donc je suis en même temps un héritier de la légitimité royaliste et monarchique. Et je suis en même temps l'héritier de 1789. Donc, la colonne de juillet représente tout cela pour les Parisiens, pour les Français. Troisième élément important, en 1816, le Panthéon, qui était le temple de la gloire voulu par les révolutionnaires, où l'on avait enseveli les tombes, les corps de Voltaire et de Rousseau, eh bien, avait été rendu à l'Église catholique, elle était redevenue le temple de Sainte-Geneviève. Bien. En 1830, Louis-Philippe restitue l'église Sainte-Geneviève à son légitime propriétaire, la Révolution. Il redevient le Panthéon. Les reliques de Sainte-Geneviève vont à Saint-Étienne-du-Mont à côté. Et donc, le Panthéon redevient ce qu'il était à l'époque de la Révolution. Alors, il n'y aura pas de panthéonisation sous Louis-Philippe, trop dangereux. Mais en revanche, le fronton est sculpté par David d'Angers, grand sculpteur républicain, et qui va inscrire la fameuse phrase « aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Et depuis, la façade du Panthéon n'a pas changé. Donc vous voyez quand même, tous ces éléments sont importants. Le château de Versailles transformé en musée de toutes les gloires de la France, l'achèvement de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, la colonne de Juillet, le fronton du Panthéon, la remise au sommet de la colonne de la place Vendôme de la statue du petit caporal qui avait été descendu par la Restauration, qu'il avait remplacé par une figure de victoire, mais anonyme. Désormais, Napoléon retrouve sa place au sommet de la colonne édifiée avec les canons de prix à Austerlitz en hommage à la Grande Armée. Donc tous ces éléments montrent effectivement qu'il y a chez Louis-Philippe un désir pédagogique de faire de l'histoire contemporaine, de faire de l'histoire de France un élément essentiel de l'espace public.
Alors, tous ces monuments...
Et j'ajoute aussi l'hôtel de ville de Paris, qui va être sculpté avec des centaines de statues qui sont celles des grands hommes de l'histoire de France.
Tous ces monuments, vous l'avez dit, se trouvent à Paris ou à Versailles.
Paris, oui.
Comment Louis-Philippe parvient-il à toucher les régions ?
Vous avez raison, il y a aussi des statues dans les régions, des statues d'anciens soldats, d'anciens généraux de la Révolution. Il y a la statue de Hoche qui est édifiée devant le château de Versailles, à Versailles, pour rappeler que si le château rappelle les gloires de la monarchie, Hoche, l'incarnation de la promotion populaire, avant la Révolution, il était simple soldat. Et il savait qu'il ne deviendrait jamais officier puisqu'il n'était pas noble. Grâce à la Révolution, à 25 ans, il devient général en chef. Et donc la statue de Hoche face au château est une sorte de défi pour montrer le bilan promotionnel de la Révolution. Il y a des statues à Nancy, il y a un des généraux les plus proches de Napoléon, dont le nom m'échappe pour l'instant, mais qui va me revenir, qui est édifié on peut dire que dans toutes les provinces, on va édifier des statues à des grands hommes de la Révolution et de l'Empire, pour rappeler que la province a contribué. Donc Louis-Philippe est, on peut dire, un bâtisseur de mémoire. À Marseille, l'Arc de Triomphe qui faisait à la porte d'Aix, qui est à l'entrée de la ville, qui aurait dû normalement célébrer la guerre d'Espagne voulue par Louis XVIII pour remettre sur le trône Ferdinand VII, roi omni des Espagnols. Eh bien, après 1830, le programme est modifié et le programme qui est fait sur l'Arc de Triomphe de la porte d'Aix représente la gloire du jeune Bonaparte en Italie, général Bonaparte. Donc vous le voyez, la Révolution française est omniprésente et les grandes figures donc sont présentes. Le Second Empire, lui, sera beaucoup plus modeste et se contentera d'édifier des statues de Napoléon. Ce sont les statues de Napoléon qui sont toujours en place, les autres avaient été détruites auparavant, notamment à Cherbourg. Vous avez une statue à Cherbourg, donc pour rappeler que le port de Cherbourg a été grandement terminé par Napoléon, avec ses grandes digues. La statue qui est à Rouen aussi, est une statue de Napoléon qui est en place encore aujourd'hui, c'est le Second Empire, et d'autres statues sont en place avec le Second Empire, qui rappelle donc la présence de Napoléon Ier sous le Second Empire. Mais c'est surtout la Troisième République qui va effectivement, on peut dire, modifier le rapport à l'histoire.
Alors, peut-être que nous pouvons un tout petit peu nous arrêter sur Napoléon III, qui, lui, était vraiment féru d'histoire et qui, peut-être, a rattaché la France à des origines plus antiques que lui, qui s'est passionné pour Jules César, notamment.
Alors, Napoléon III, vous avez raison, a un rapport passionnant avec l'histoire. Bon, Napoléon III est un passionné de Jules César, de l'histoire. Il connaît très bien l'épopée romaine. Il sera même, j'ai appris ça dans une exposition qui a eu lieu à Saint-Germain-en-Laye, à un moment donné, propriétaire de l'ancien Capitole à Rome. Il était propriétaire et a fait faire des fouilles sur le Capitole à Rome. Et il a voulu donc, il était lui-même, avec l'aide de Victor Duruy, qui lui est un vrai spécialiste de la Rome antique, il a écrit une vie de Jules César. Il se présente évidemment par son coup d'État comme une sorte d'équivalent français de ce qu'a été Jules César pour Rome, c'est-à-dire quelqu'un qui a remis de l'ordre après l'anarchie révolutionnaire. Bon. Mais en même temps, vous avez raison, Napoléon III est sensible à ceux qui commencent à dire « mais la France a des origines gauloises ». Et le héros des Gaulois, ce n'est pas Jules César, évidemment, puisque c'est le conquérant, mais c'est Vercingétorix, celui qui a tenu tête à César. Et on peut dire que Napoléon III est arrivé habilement à tenir un langage en même temps en disant « Je suis à la fois l'héritier de César, mais je reconnais aussi que Vercingétorix est le premier héros de notre histoire. » Et c'est lui qui, dans les années 1860, va faire des fouilles à Alésia, pour retrouver, on va retrouver en effet toutes les tranchées faites par les soldats romains pour faire le siège, pour aboutir à la capitulation de Vercingétorix. Et puis, il va édifier sur Alésia la fameuse statue, c'est par le sculpteur Aimé Millet, la fameuse sculpture qui représente Vercingétorix, qui domine donc toute la plaine, et qui est présentée comme le héros de notre histoire. Aux grandes dames des catholiques, car pour les catholiques, le premier héros de l'histoire, ce n'est pas Vercingétorix, c'est bien entendu Clovis, puisque Clovis est un roi baptisé. Et les catholiques n'arrêtent pas de dire dans leurs ouvrages scolaires et populaires que la France a été baptisée avec Clovis. Bon, là, on change de paradigme. Si Vercingétorix est vraiment le premier héros de l'histoire, ça veut dire que c'est un héros païen, et que donc il précède, en quelque sorte, l'évangélisation, le baptême de la France. Vous voyez qu'on est dans deux conceptions de l'histoire qui vont s'affronter déjà. Donc Napoléon III a délibérément choisi Vercingétorix comme premier héros d'histoire. On dirait que la statue de Millet le représente, représenterait le visage de Napoléon III, ce qui est possible. Bon. Et puis, on va créer, dans l'ancien château de Saint-Germain-en-Laye, un musée des antiquités nationales. Et ce musée va accueillir donc tout ce qu'on a trouvé dans les fouilles d'Alésia et également des vestiges, des éléments de la mémoire celtique et de la mémoire gauloise. Bien. Et aujourd'hui, le musée des antiquités nationales est un superbe musée d'histoire. Alors ça, mais au niveau de l'histoire contemporaine, Napoléon III sera très prudent. Il va essayer de ménager quand même les royalistes. Je prends un exemple. Sous la Seconde République, on avait décidé d'édifier, donc à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le RER Port-Royal, une statue au maréchal Ney, qui avait été fusillé sur l'ordre de Louis XVIII pour avoir, sous les 100 jours, rejoint Napoléon Ier, les premiers à Louis XVIII, qui ramènerait l'ogre corse dans une cage de fer. Bon, Louis XVIII, il n'en demandait pas tant. Et puis, quand il a rencontré Napoléon, il s'est rallié à lui, il a crié « Les Bourbons, c'est fini, vive l'empereur bon, !» Et évidemment, après Waterloo, vous en doutez, il a été condamné et condamné à mort, exécuté. Donc, la Seconde République, pour rendre hommage à ce martyr de la monarchie, a demandé à Rude de représenter sa statue. Et cette statue, dans un premier temps, devait être une statue valorisant une victime de la monarchie absolue, de la monarchie légitimiste. Et puis quand Louis-Napoléon Bonaparte est devenu, après par son coup d'État, le maître de la France, il a convoqué Rude, il a dit « Bon, on vous a commandé une statue de Ney, qui était un ami de la famille, je suis d'accord, mais vous n'allez pas le représenter comme victime des monarchistes. Je ne veux pas me mettre à dos les monarchistes, il veut les rallier, donc pas question de les défier. » Donc c'est lui qui demande à Rude de faire la statue actuelle, qui est un chef-d'œuvre, qui représente Rude à la retraite de Russie, à l'arrière-garde de la retraite de Russie, où il se comportait de manière héroïque et admirable. Il va sauver ce qui peut l'être de la Grande Armée. Et donc c'est une autre vision d'un combattant. Ça c'est Napoléon III qui l'impose, on voit. Et au niveau des statues, il ne va pratiquement pas faire grand-chose, en dehors des statues dont j'ai parlé, en faveur de son oncle Napoléon Ier. Parce qu'il ne veut pas trop entrer sur ce terrain miné, il a compris que c'était dangereux, et donc il va s'en tenir surtout à cette idée, les ancêtres, notre ancêtre Vercingétorix, et la vision de Ney, qui n'est pas la victime de la monarchie. Voilà ce qu'on peut dire pour Napoléon III.
Alors nous en arrivons à la Troisième République, voilà. Et comme vous le disiez, nous passons à la vitesse supérieure, l'histoire devient un sujet vraiment politique. Les Français doivent s'emparer de leur histoire. Alors, comment s'y prennent les Républicains ?
Pour les Républicains,
pour mettre en œuvre ce programme.
Je répète, ils ont repris ce qu'avait déjà fait Victor Duruy. Victor Duruy avait déjà essayé de faire de l'histoire de France un élément obligatoire dans le cursus de l'école primaire. Et il n'était pas parvenu. Ou plutôt, ça avait bien fonctionné dans les villes, mais pas dans les villages. Parce que les villages n'avaient pas les moyens de s'acheter des livres d'histoire, tout simplement. Bon, et là, les Républicains vont mettre le paquet. Parce que tout simplement, pour eux, c'est une question politique fondamentale. Il faut en quelque sorte montrer que l'histoire de France est une religion laïque. Et ils vont avoir avec Lavis, Ernest Lavis, dont Pierre Nora a dit à juste titre qu'il était l'instituteur national. Et Pierre Nora a raison. C'est lui qui va former, en quelque sorte, tous les petits Français entre les années Jules Ferry, c'est-à-dire 1880, et bien longtemps après sa mort. Je crois que Lavis est mort en 1922, mais les dernières éditions de son petit Lavis sont de 1946. c'est-à-dire au lendemain de la victoire de 1945. Les dernières images que j'ai vues, que j'ai feuilletées dans la vie, c'est la libération de l'Alsace en 1944. Bon. Donc, Lavis est quelqu'un qui va faire de l'histoire de France une histoire sainte, qui va considérer que l'histoire de France doit remplacer le catéchisme diocésain, qui était en usage jusqu'alors dans les écoles, aussi bien laïques que confessionnelles. Désormais, avec Jules Ferry, l'espace de l'école devient laïque, c'est-à-dire qu'on n'y enseigne pas la religion. Et comme Jules Ferry n'est pas un sectaire, il a créé le jeudi. Le jeudi a été créé par Jules Ferry pour que les enfants chrétiens puissent aller chez le curé apprendre le catéchisme. C'était le jour considéré pour l'école. Soit les protestants vont à l'école du dimanche, soit les catholiques vont le jeudi chez le curé pour recevoir le catéchisme. Et Jules Ferry a fait les choses en sorte que... Mais à l'intérieur de l'école primaire laïque, on n'enseigne pas la religion, ou plutôt on enseigne la religion qui est celle de l'histoire de France comme une histoire sainte, comme une histoire sainte. Depuis nos ancêtres les Gaulois, qui cette fois-ci sont de manière très claire désignés comme nos ancêtres, Clovis n'étant qu'un brigand, un homme qui a assassiné tous ceux qui lui faisaient de l'ombrage, et le baptême de Clovis étant réduit à un épisode secondaire. Bon, sauf bien sûr dans les manuels confessionnels, bien entendu. Bon. Et le génie de Lavis, c'est d'avoir en quelque sorte, dans ces manuels, réussi trois choses. La première, c'est de faire passer dans ce récit national ce qui était l'essence du roman national chez Michelet. C'est-à-dire de faire comprendre que l'histoire de France était l'histoire d'une personne qui avait un début, au fond, nos ancêtres les Gaulois. Et le Moyen-Âge, c'est la naissance du peuple français, c'est l'enfance du peuple français. On se penche sur lui avec la même affection que l'on se penche sur le berceau de l'enfant qui vient de naître. La Renaissance, avec la réforme de Luther et de Calvin, avec Rabelais, c'est en quelque sorte l'adolescence où on commence à remettre en question un certain nombre de dogmes, ceux de l'Église, bien entendu, ceux de la monarchie, ceux de la noblesse. Et puis, avec la Révolution, le français atteint l'âge adulte et désormais, il signifie à ses tuteurs un peu encombrants l'Église, la monarchie, la noblesse, que désormais c'est fini. Il se gouvernera tout seul puisqu'il a atteint l'âge de la maturité. Deuxième élément, Lavis a un art consommé pour se faire comprendre des petits paysans. Et il va leur dire, tu vois, au fond, l'histoire de France, c'est comme la propriété de tes parents et de tes grands-parents. L'arrière-grand-père avait quelques petits champs. Et puis, à la force du labeur, ton père a réussi à acheter à côté quelques arpents de terre qui sont venus s'ajouter. Alors, et puis, toi-même, eh bien, tu rajouteras un ou deux champs. Et tu vas faire en sorte qu'à ta mort, lorsque tu céderas ta propriété à tes propres enfants, eh bien, tu auras doublé ou triplé la surface. Eh bien, tu vois, les rois de France, depuis Philippe Auguste jusqu'à Louis XIV, ils ont fait la même chose. Leur politique, ça a été de rajouter au domaine royal initial de Hugues Capet, qui était minuscule, des provinces riches. Philippe Auguste a porté la Normandie, puis Mazarin a conquis l'Artois, l'Alsace et le pays catalan, le Roussillon, etc. Chacun, Louis XIV, a apporté la Franche-Comté, etc. Chacun, sous Louis XV, la Lorraine, a rejoint la France. Il va montrer comment, en quelque sorte, l'agrandissement du pré-national, c'est un peu la même chose que l'histoire de la famille. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale, parce que les petits paysans pouvaient parfaitement comprendre cette histoire-là. Enfin, la troisième idée, c'est qu'il y a une continuité. Bon, beaucoup, les plus radicaux, vont dire « la France naît avec la Révolution ». Lavis dira « non, l'histoire de France, elle naît avec nos ancêtres les Gaulois. Il y a de bons rois, ceux qui, en quelque sorte, complètent le domaine royal, le précaré royal, c'est Philippe Auguste, c'est Louis XI, un méchant bonhomme, c'est vrai que sa politique n'a rien à voir avec la morale, il ne faut surtout pas le suivre, mais il a mis fin à la terreur qu'exerçait Charles le Téméraire, qui disait « j'aime tellement la France que j'aimerais qu'il y en ait deux ou trois ». Et c'est lui qui a vaincu le téméraire qui voulait démembrer la France. Donc Louis XI, on lui rend hommage. Oui, c'est un méchant homme, il mentait, c'est pas beau, mais il le faisait pour le bien de l'État, pour la raison d'État, et on voit le résultat. Richelieu, c'est pareil. Bon, c'est pas un personnage très sympathique, mais il a réussi à vaincre la maison d'Autriche. Mazarin, c'est un personnage très important, parce que, quoi qu'italien, eh bien, il a laissé la France beaucoup plus grande qu'il avait trouvée. Donc, il y a une continuité qui dépasse les guerres de religion, la Révolution. Ce qui est important, c'est la France. Et puis, conclusion de ces trois idées forces chez Lavis, un Michelet en puissance, en quelque sorte, qui dit aux petits Français, maintenant, que tu connais l'histoire de la France, que tu sais d'où elle vient, comment elle a été faite, tu dois être prêt à verser ton sang pour la défendre et pour permettre qu'elle récupère l'Alsace-Lorraine que de méchants voisins nous ont prise en 1871. Donc là, la vie, c'est un langage, c'est le récit national qui doit, en quelque sorte, favoriser l'unité nationale. Et ça a marché. Si nos auditeurs ont entendu mercredi dernier l'émission que François Bunel a consacrée dans la Grande Librairie à ce jeune centenaire qu'est Edgar Morin, il aura, dans les premiers mois de juillet, jour de juillet, il aura 100 ans. Eh bien, Edgar Morin, dans son livre de souvenirs autocritique, rappelle que lui qui venait d'un juif, qui venait d'Espagne, etc., qui avait plusieurs identités, eh bien, ce qui a fait de lui un petit Français, ben, c'est le roman national, c'est le récit national tricoté par la vis. Bon, François Cavanna, une autre génération plus tard, lui, le fils de Rital, dira la même chose. Il était passionné par ce récit national qu'il connaissait par cœur, qu'il avait appris par son instituteur, par son livre d'école. Alors, c'est peut-être plus la vis, mais en tout cas, Cavanna connaissait son histoire sur le bout des doigts et il disait, ce qui a fait de moi un Français, eh bien, c'est le récit national du manuel scolaire. Et on pourrait multiplier d'autres exemples. Donc, on peut dire que ça a parfaitement marché.
Et jusqu'à quand cela a-t-il marché ?
Alors ça, c'est un autre problème, c'est un grand problème. Je dirais que ça a fonctionné jusqu'aux années 60. Bon, mai 68, évidemment, mai 68 va mettre en quelque sorte, comme on chantait à l'époque, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu, etc. Bon, le livre d'histoire va être effectivement liquidé. Vous savez que dans les années 70, on va remplacer cette histoire de France qui est mal vue parce qu'elle correspond à une histoire qui est bourgeoise, etc. Bon, tout ce qu'on veut, les critiques de Bourdieu et d'autres. Bon, on va la remplacer par quelque chose qui sera une histoire économique et sociale du peuple français qui est n'importe quoi, enfin qui n'est pas de l'histoire. Je crois que donc ça a duré jusqu'aux années 60 à peu près. Bon, alors aujourd'hui on est revenu à cette chronologie, c'est vrai, mais avec d'autres considérations. Est-ce qu'on peut encore tenir ce discours? Ça, c'est un autre problème, bien entendu. Il ne s'agit pas de revenir au lavis, c'est terminé. Mais je crois que jusqu'aux années 60, ça a bien fonctionné, effectivement. Ça a fait des petits Français. Bon, ça a fait des Français, en tout cas. Et puis, bon, ben aujourd'hui, il faut inventer, en effet, une histoire de France qui corresponde à d'autres identités, et ce n'est pas évident, vous le savez comme moi. Bon, ce n'est pas évident du tout.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons encore à ce long 19e siècle qui a construit l'histoire de France?
Alors, nous devons aussi,
façon,
c'était l'autre
qui
volet.
Qui a façonné notre regard.
C'est ce que nous devons aussi à la Troisième République. Il y a eu non seulement cet investissement scolaire très important, faire de l'histoire de France pour tous les Français une histoire sacrée, une histoire religieuse qui remplace le catéchisme. Et on peut dire que la vie, c'est la Troisième République qui est parvenue. Et puis, il y avait l'occupation de l'espace public. Et là, on peut dire qu'ils ont mis les bouchées doubles par rapport à la monarchie de Juillet et par rapport au Second Empire. Bon, il y a d'abord eu une multiplication de statues dans l'espace public. On a, et on peut le voir encore aujourd'hui, malgré les destructions de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette idée, au fond, que l'histoire de France, il y avait dans l'espace public, il fallait privilégier trois périodes, trois séquences. Il y avait les ancêtres, les précurseurs de la Révolution française. Il y avait les héros de la Révolution française. Il y avait les héritiers de la Révolution française. Alors, les précurseurs de la Révolution française, ben, vous avez un bel exemple, je l'ai vu en passant ce matin, c'est dans le jardin d'Hôtel de Ville, là où se trouve donc Madame Hidalgo, comme maire de Paris. Eh bien, vous avez une statue équestre en bronze, qui est celle de Étienne Marcel, qui avait le titre, au XIVe siècle, de prévôt des marchands de Paris, qui était l'interlocuteur du roi, pour tout ce qui touchait à l'administration de la ville de Paris, qui était effectivement une ville gigantesque, déjà peut-être plus de 150 000, peut-être 200 000 habitants. C'était le maire de Paris, sans avoir le titre. Bon. Et vous savez qu'après la défaite honteuse de Jean le Bon à Poitiers en 1356, Étienne Marcel a pris le pouvoir, a tenté de prendre le pouvoir. Bon. Et alors, pour les Républicains, c'est clair, Étienne Marcel est une sorte de Danton, voire de Robespierre du XIVe siècle. Et comme il est mort le 31 juillet, assassiné lorsqu'il voulait ouvrir les portes de la ville à Charles le Mauvais, roi de Navarre, allié des Anglais, eh bien, on a dit, mais ça ressemble beaucoup à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794, à quelques jours près, c'est ça. Et on dira de la chute d'Étienne Marcel que c'est un neuf thermidor médiéval. Bon. Aujourd'hui, les historiens sont... Jean Favier a fait littéraire de tout ça. Pour lui, c'est une affaire de gros sous. Bon. Vengeance d'Étienne Marcel qui avait été grugé dans la succession de son beau-père, bon, et qui s'est vengé. Donc, Danton et Robespierre
sont bien loin.
Circuler, rien à voir. Bon. Mais pour les Républicains, c'est clair que c'est un ancêtre. Et la preuve, c'est que la statue qui est là est inaugurée le 13 juillet 1888. La veille d'un 14 juillet, et la veille du premier centenaire de la Révolution, pour bien montrer que tout commence au XIVe siècle. C'est la vision d'Augustin Thierry. Toute l'histoire de France est le combat des communes, du tiers-état, contre les méchants seigneurs, la monarchie, l'Église, pour triompher. Et le 14 juillet, la prise de la Bastille, c'est le triomphe du peuple de Paris, qui est le lointain héritier des communes du XIIe siècle et d'Étienne Marcel. Bon. Voltaire est considéré aussi comme l'homme des Lumières, avec des statues en place qui ont disparu souvent. Voltaire est représentatif, en quelque sorte, celui qui va préparer la Révolution, dans les esprits en tout cas, par l'encyclopédie et par le reste. Bon. Les héros de la Révolution, ben, on va les mettre là, à condition qu'ils soient patriotes, qu'ils ne soient pas trop clivants. Donc pas de statue de Robespierre, trop clivant. Mais en revanche, aller au carrefour de l'Odéon, là où se trouvait, la maison a disparu, mais elle se trouvait dans ses parages, on a édifié une statue à Danton, parce que Danton incarne celui qui a soulevé l'enthousiasme des sections parisiennes, des volontaires en 1792, lorsque les Prussiens approchent de Paris, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. Donc Danton, victime de Robespierre, est le héros idéal de la Révolution. On élèvera aussi une statue à Condorcet, ben, devant l'Institut, d'ici. La statue a été détruite puis reconstruite. Et en plus, Condorcet était féministe et voulait que les femmes jouent un rôle dans la cité. Et Condorcet, de ce point de vue-là, est un ancêtre idéal. Aucun problème. Donc, on va représenter les personnages de la Révolution qui sont compatibles avec les valeurs républicaines. Donc, Danton, Condorcet, et puis des grands soldats. On va élever au Morbihan une statue à Hoche, là où il a vaincu les émigrés qui avaient débarqué pour essayer de donner la main aux Vendéens contre la République et qui a vaincu les émigrés. Donc on va en quelque sorte amplifier tout le mouvement de la monarchie de juillet, mais en l'étendant à toute la France. Je vous renvoie pour les statues au très beau livre de mon amie Jacqueline Alouette, qui a fait un très beau livre sur les statues de France, où elle raconte toute cette histoire qui est passionnante. Donc les héros de la Révolution, ceux qui sont compatibles, et puis les héritiers de la Révolution, ben, ceux qui ont permis à la République de s'installer en 48 et surtout en 1870. Héros, c'est Victor Hugo. Victor Hugo qui aura droit à sa statue, bien entendu, détruite aujourd'hui. Et c'est Gambetta. Il y aura Lamartine. Lamartine, le grand héros de 48, même s'il est vaincu. Il y aura Victor Hugo. Et puis il y aura Gambetta. Gambetta, celui qui a galvanisé comme Danton les énergies patriotiques en 1870. Il a été vaincu, mais il a donné l'exemple de ce qu'il fallait faire. Et donc vous avez, à Sèvres, devant l'ancienne demeure donc de Gambetta, vous avez une très belle statue qui a été édifiée en honneur, en hommage à la mémoire, par les Alsaciens qui se souvenaient que Gambetta avait été député de l'Alsace en 1870, avait tenté de s'opposer à l'annexion de l'Alsace au Reich. Voilà quelques-uns de ceux qui vont, en quelque sorte, contribuer à stabiliser la République. Vous avez aussi les mairies, les décors, les fresques des mairies parisiennes. Je crois que c'est dans le 19e arrondissement, une magnifique fresque qui résume autour de Marianne eh bien, tous ces combattants, ceux de la Révolution. On voit Saint-Just, on voit Gambetta, on voit tous les héros de la Révolution qui sont là, autour de Marianne, pour montrer le triomphe de Marianne. C'est la statue de Dalou, place de la Nation. C'est la statue des frères Maurice, place de la République. Une immense, des statues colossales de la République, pour bien montrer que désormais, la République est chez elle, dans son pays. Et avec la multiplication dans tout le pays, notamment dans l'Hérault, dans mon département, dans le Midi, Maurice Agulon a étudié tout ça, le premier département en nombre de Marianne, c'est le département de l'Hérault, devant l'Aude. Disons que l'arc de cercle méditerranéen arrive largement en tête. En revanche, on trouve très peu ou quasiment pas de statut de Marianne dans la Bretagne ou dans l'ouest de la France, qui est plutôt monarchiste et catholique. Voilà, en quelque sorte. Donc, il y a un énorme investissement de l'école, mais de l'espace public, avec des noms de rues aussi.
Avec les noms de rues, justement, j'allais y venir, parce que c'est important.
Alors, dans l'ouest de la France, on va débaptiser à tour de bras. Partout, vous avez des noms de saints. Après 1880, ils vont disparaître et vont se remplacer par des saints de l'ère contemporaine. Ce sera Voltaire, ce sera Rousseau, ce sera donc Danton, ce sera Hoche, ce sera toutes les grandes, ce sera Marceau, toutes les grandes figures du panthéon républicain qui seront là.
Alors aujourd'hui, les historiens abordent le passé de la France d'une façon différente et n'ont plus nécessairement cette grille de lecture qui résulte d'une certaine forme d'idéologie politique. Mais malgré tout, nous sommes toujours les héritiers de cette période. Comment est-ce que notre regard aujourd'hui, ce serait peut-être le mot de conclusion, est-il encore façonné par ces idées du 19e siècle?
Bien sûr, moi je pense que nous sommes quand même les héritiers et l'idée de déboulonner des statues, de les vandaliser, me paraît absolument stupide. Je le dis comme je le pense, sans prendre à Colbert parce qu'il a été soi-disant le promoteur du Code Noir, c'est ne rien comprendre à l'histoire, c'est faire de l'anachronisme total. L'histoire n'est pas un juge, un historien n'est pas un juge. L'histoire ne porte pas de jugements moraux. Elle s'efforce de comprendre une réalité très complexe. Bon, Colbert n'est pas le responsable du Code Noir. Et le Code Noir, si on le prend, si on le lit attentivement, il s'efforce d'introduire, timidement, trop timidement, j'en suis bien d'accord, une certaine humanité dans un comportement colonial qui n'avait aucune humanité, qui considérait les Noirs comme des bêtes de somme. Et Colbert rappelait simplement aux propriétaires que les Noirs étaient aussi des chrétiens, ils étaient redevables de leur salut et qu'il fallait donc leur assurer quand même une existence correcte. Bon, bien entendu, les coloniaux s'en fichaient, on est bien d'accord. Mais accuser Colbert de ce qu'il n'a pas fait me paraît ne rien comprendre à l'histoire. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et puis le bilan de Colbert, c'est quand même l'Institut de France, je me souviens, qui en 1983 avait fait à La Monnaie une très belle exposition qui récapitulait, j'avais moi-même participé, avec un chapitre sur les représentations scolaires de Colbert. Et je ne rougis pas de ce travail. Et le catalogue qui avait été fait par Ignace Murat, par Jacqueline Sanson, qui était responsable à l'époque à la Bibliothèque nationale de France, une collègue à l'époque, eh bien, était un catalogue remarquable, qui faisait un bilan. Et des hommes comme Jean-Pierre Chevènement avaient salué en Colbert quelqu'un qui avait contribué à la grandeur nationale par la mise en place d'une économie, d'une industrie, justement, nationale, qui permettait de créer des emplois, etc. Alors, il ne faut pas, je crois, faire d'anachronisme. Bon. Nous devons, je crois, à ce passé, quand même, à cette histoire complexe, il faut la regarder avec sa complexité, et je crois que nous lui devons quand même, je dirais, l'essentiel de ce que nous sommes. Bon, en ce moment, nous avons beaucoup d'expositions sur Napoléon, et Napoléon, on peut déplorer, je suis le premier à le faire, tout le sang versé pour rien, les campagnes sans cesse, etc. Mais il y a aussi l'autre aspect que Napoléon a laissé et qui est toujours d'actualité pour nous, c'est-à-dire la structure administrative de la France. Bon, les recteurs qu'il a créés, qui sont des préfets pour l'université, pour le système secondaire, fonctionnent bien. Parce que justement, les recteurs sont là pour faire en sorte que le système scolaire fonctionne avec efficacité. Je veux dire que le système des préfectures, tout le système administratif français date de l'époque napoléonienne. On peut le déplorer. Moi, je trouve que c'est plutôt un bilan positif. Bon, le franc germinal qu'il a créé en 1802, je crois, a tenu la route pendant plus d'un siècle. C'est seulement après la Grande Guerre que le franc s'est effondré parce que les dépenses de la guerre avaient entraîné un déficit colossal. Bon, et si malgré toutes les défaites, toutes les révolutions, la France ne s'est pas effondrée, c'est grâce aux structures napoléoniennes. Donc nous devons beaucoup à ce Xe siècle. Alors je sais que Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, avait critiqué ce siècle en disant le stupide Xe siècle. Moi je dirais que c'est pas du tout le stupide Xe siècle. Ce Xe siècle, il a inventé toutes les institutions culturelles qui sont les nôtres. Bon, c'est l'Institut de France qui a été reconstitué par Napoléon au lendemain de la Révolution, qu'il avait supprimé. C'est toutes les institutions culturelles du salon. C'est quand même nous devons au XIXe siècle, je dirais, la réorganisation de la France après la Révolution, après la tornade Révolution qui a fait la table rase, ne pas oublier que toutes les institutions du passé avaient été détruites. Bon, la seule institution qui n'a pas été détruite, c'est le Collège de France, parce qu'au moment où on voulait le détruire, on s'est dit non, on arrête, on le garde. Bon. Même la faculté de médecine de Montpellier avait été supprimée, mais on ne peut pas arrêter la maladie. Donc il avait fallu la recréer sous un autre nom, puisque la maladie et la mort existent toujours, malgré les révolutions. Bon. Donc, le travail quand même de reconstruction de ce pays a été fait par le Xe siècle. Alors, on peut contester tous les aspects, le fait que les femmes n'aient pas pu voter avant 1946, on est bien d'accord, il y a des tas de... Mais il faut rappeler que nous ne sommes pas les historiens des juges. Nous ne sommes pas là pour distribuer des bons et des mauvais points à nos ancêtres. Moi, je trouve que ce XIXe siècle, qui est celui du romantisme, qui est celui du néoclassicisme, qui est celui des impressionnismes, est un siècle qui est celui de Balzac, qui est celui de Baudelaire. On célèbre cette année quand même le bicentenaire de la naissance de Baudelaire et de Flaubert, qui sont quand même deux des plus grands écrivains de langue française. Moi, je dirais que le bilan du XIXe siècle, un XIXe siècle prolongé jusqu'en 1914, est fabuleux. Sur le plan des lettres, c'est quand même quelque chose. Je visitais ce matin une exposition au musée Picasso. Picasso lui-même, qui voulait quand même dynamiter tout le système des beaux-arts avant lui, a quand même fait de gravures magnifiques à Balzac, en hommage à Balzac. On le confronte à Rodin. Bon, confrontation stimulante, on voit comment Balzac a suscité l'admiration de Picasso lui-même. Bon. Donc ce 19e siècle, Baudelaire a inventé la modernité. Moi je dirais que ce 19e siècle, il a été justement, il a créé toutes sortes de choses qui étaient faites pour être remises en cause ensuite par toutes les révolutions culturelles artistiques du 20e siècle, mais nous lui devons l'essentiel de ce que nous sommes, un héritage culturel immense qui nous a fait un trésor culturel. Il avait lui-même repris l'héritage culturel de l'Ancien Régime, du Moyen-Âge, c'est lui qui a redécouvert le Moyen-Âge. Bon, sans Victor Hugo, Notre-Dame de Paris n'existerait plus, etc. Donc moi, je dirais, je rendrai hommage à cet héritage du Xe siècle, même s'il est imparfait, nous en sommes d'accord, mais quelle est l'époque parfaite? Je n'en connais pas.
Eh bien, un grand merci, Christian Amalvi, de nous avoir appris comment les petits Français se sont appropriés leur histoire dans un long 19e siècle. Et nous pouvons peut-être en retenir de cette époque qu'ils assumaient une histoire peut-être complète, globale, peut-être de façon imparfaite, mais en tout cas avec les parts d'ombre et de lumière de l'histoire de France. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paul Valéry. À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.